Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Pérou est une dictature déguisée en démocratie. Un texte de Johann Schaubl et Isia Rouvillier, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir. Jeune et en colère, la génération Z péruvienne conteste un État gangrené par la corruption et l'autoritarisme. « J'ai cru mourir ce jour-là », raconte au Devoir Maria Pia Rodriguez Salinas, encore remuée par la manifestation du 15 octobre 2025 à Lima, la capitale. Les gens étaient pacifiques. Il y avait des danseurs, des flûtistes, des échassiers qui jonglaient, décrit la photographe documentaire, présente pour couvrir l'événement. Puis, les premières bombes lacrymogènes ont explosé. Mobilisés depuis fin septembre 2025 contre un gouvernement corrompu et une insécurité record, la génération Z péruvienne a fait face ce jour-là à d'importantes violences policières qui ont coûté la vie à un manifestant, Truco Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un rappeur de 32 ans. Tout le monde courait pour sauver sa vie, se remémore-t-elle avec effroi. Les accès de l'avenue Abanque aux abords du Congrès étaient bloqués. Il y avait des femmes enceintes, des enfants, des personnes handicapées qui n'arrivaient plus à respirer et qui suppliaient de les laisser passer en vain. Certains policiers se moquaient d'eux. Depuis, la participation au rassemblement est en berne. La mort de Truco a effrayé beaucoup de monde, explique-t-elle. Nous avons peur. Mais nous n'allons pas pour autant arrêter la lutte, assure Jacob Solano, porte-parole d'un des collectifs de jeunes de la génération Z. Horizontaux, ces groupes ne sont ni de droite ni de gauche et n'appuient aucun parti politique, insiste le militant de 23 ans. Avec ses vidéos d'information virale publiées sur TikTok, il est devenu l'une des figures les plus visibles du mouvement. La presse traditionnelle est vendue au gouvernement. Elle diffuse une image négative des manifestants, justifie-t-il. Je veux montrer aux citoyens ce qu'il se passe vraiment. Que le Pérou est une dictature déguisée en démocratie. Abus policiers, députés corrompus, homicides et extorsions en hausse. Les défaillances de l'État sont légion et alimentent le ras-le-bol des Péruviens. Les politiciens sont des mercenaires au service de l'argent. Yann Villanueva, ami du militant et cofondateur du même collectif, fustige notamment le pacte mafieux du Congrès, institution dont plus de la moitié des députés font l'objet d'enquêtes pour corruption ou autres crimes. Au Pérou, les politiciens ne servent pas le peuple, ce sont des mercenaires au service de l'argent, dénonce le comptable de 29 ans. Un rapport publié par l'ONG Human Rights Watch en juillet détaille comment des mesures parlementaires ont affaibli l'indépendance judiciaire du pays et sa capacité à lutter contre le crime organisé, conduisant à une nette détérioration de la situation sécuritaire ces dernières années. Le secteur des transports et les commerces sont particulièrement affectés. Mon père travaille à bord d'un minibus. Il a reçu des menaces d'extorsion, confie avec gravité Juan Villanueva. On lui a envoyé une vidéo d'un collègue qui opérait sur la même ligne que lui. On y voit un membre de gang l'abattre d'une balle dans la tête. Selon le ministère public, les plaintes pour extorsion ont quintuplé à l'échelle nationale entre 2021 et 2024. Le nombre annuel d'homicides a quant à lui augmenté de près de 137% entre 2018 et 2024, d'après la police péruvienne. Un des objectifs des collectifs de la génération Z est de faire annuler ces lois pro-criminalité qui permettent aux bandes organisées de prospérer. Le 10 octobre 2025, Un pas a été franchi avec la destitution par le Congrès de la présidente Dina Boluarte, visée par cette enquête pénale. Même si José Jerry, qui l'a remplacée, est tout aussi corrompu. C'est une autre marionnette à la solde du Congrès, accuse M. Villanueva. L'ancien chef du Parlement est mis en cause dans une affaire pour viol après une plainte déposée contre lui en janvier 2025, classée sans suite par un procureur lui-même soupçonné de corruption. Nous souhaitons aussi obtenir justice pour les 50 personnes tuées lors des manifestations ayant eu lieu sous la présidence de Dina Boluarte entre décembre 2022 et mars 2023, ajoute Jacob Solano, le regard sombre sous ses mèches noires rebelles. Les Péruviens ont oublié, regrette-t-il. Vince Mogg refuse également l'oubli pour Trucco. Son ami d'enfance, véritable pilier du mouvement hip-hop à Lima. C'était un père et un fils formidables. Je le considérais comme mon frère, se souvient ce grand gaillard de 33 ans, ses yeux marrons assombris par la tristesse. Depuis 2012, ils partageaient leur passion pour le rap dans les quartiers populaires de la capitale. Au Pérou, les meurtriers bénéficient de l'impunité, mais nous avons besoin que justice soit faite pour Trucco. Personne ne devrait mourir pour être sorti protester, déplore le rappeur, main dans les poches comme pour se donner une contenance. Il y a un terrorisme d'État. Le 31 octobre 2025, il faisait partie des artistes à se produire sur scène à l'occasion du concert Justicia para Trucco. Dans une salle discrète du centre de Lima, une centaine de personnes, en majorité des jeunes, se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Sous les néons rouges et bleus, entre passion pour le hip-hop et colère contenue, la foule s'est livrée à une danse survoltée. Devant eux, un petit autel, deux bougies et une photo du rappeur rappelle la raison de cette soirée, tandis qu'un diaporama de clichés de Trucco défile en boucle au-dessus de la scène. Entre deux morceaux, un même slogan revient scandé comme pour conjurer l'absence « Trucco presente ». Trucco est présent. Parmi les artistes présents, Lou Mestizzo, trentenaire au bonnet vert vissé sur la tête, se distingue par son regard déterminé. Originaire de Callao, district portuaire de la capitale, il se consacre à l'éducation populaire auprès des jeunes. Les autorités accusent les manifestants de terrorisme alors que c'est tout l'inverse. Il y a un terrorisme d'État, estime-t-il. Le gouvernement a même cherché à stigmatiser Trucco, à effacer ce qu'il représentait. Un artiste, un esprit critique, un militant qui s'impliquait dans son quartier à travers le hip-hop. Engagé dans la lutte sociale depuis maintenant 13 ans, l'artiste est inquiet pour l'avenir politique du pays. Comme beaucoup, il redoute l'échéance des élections générales prévues pour avril. L'extrême droite de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, se présente encore, soupire-t-il. Il faut tout faire pour l'empêcher de gagner. Mais boycotter les élections, brûler les urnes, ce serait offrir un prétexte aux autorités pour nous écraser encore plus, voire pour justifier une dictature militaire et... c'est la dernière chose que nous voulons. C'était « Le Pérou est une dictature déguisée en démocratie », un texte de Johan Chable et Isia Rouvillé, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir.
Marc Carrière et Martine Ayotte, proches aidants par amour inconditionnel pour leur fille. un texte d'Aline Van Compernol paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. Après avoir élevé leurs trois enfants et presque achevé leur parcours professionnel, Marc Carrière et son épouse Martine ont dû s'adapter rapidement au moment où leur vie a basculé et emprunté un parcours inattendu. On dit que devenir parent, c'est une tâche qui ne nous quitte jamais, que c'est pour la vie. Le rôle de parent qu'ils avaient endossé il y a 26 ans auprès de leur fille s'est rappelé à leur bon souvenir, accompagné de nouveau, celui de proche aidant. Mais avant tout, c'est l'amour qui a poussé Marc et Martine à rester au chevet de leur fille après son accident, à réaménager leur maison pour son confort et à revoir ou repousser certains projets de retraite pour assurer son bien-être. Une date et une heure qu'il n'oublie pas. Le 15 décembre 2021 à 16h45. C'est le jour où la vie de leur fille a chaviré. Et la leur aussi. Le jour de son accident sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, dans les Laurentides, qui l'a laissé tétraplégique. Jeanne Carrière est restée près de 13 mois hospitalisée, d'abord à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et, par la suite, à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, IRGLM, où elle a reçu d'excellents soins, précise son père, Marc. Lui et son épouse se sont alors relayés chaque jour pour être auprès de leur fille, excepté durant les périodes où les restrictions de la pandémie les en empêchaient. Ils ont tous les deux pris un arrêt de travail de 13 mois pour lui et jusqu'à 15 mois pour elle. Marc Carrière était directeur général de la municipalité régionale de Comté, MRC, d'Argenteuil depuis presque 30 ans au moment de l'accident de Jeanne. Il a volontairement renoncé à son poste, mais grâce à des employeurs compréhensifs et beaucoup de support de ses collègues, il travaille encore 20 heures par semaine à titre de conseiller spécial, en partie en télétravail et avec un horaire souple. « J'ai eu la chance de pouvoir continuer à servir ma communauté, mais il me fallait ralentir pour prendre soin de moi et m'offrir des conditions optimales, notamment pour mieux assumer mon rôle de proche aidant. Je vais définitivement quitter mon poste à Noël 2025 et prendre ma retraite », explique Marc. Ce n'est pas toujours facile. Ce père de famille dévoué se veut le plus optimiste possible. Il affirme ne pas vouloir tomber dans le misérabilisme et dire que c'est difficile. Il ajoute cependant, même si ce n'est pas toujours facile. Il est possible de sentir à travers le discours de Marc Carrière que l'adaptation a certainement été plus difficile qu'il ne veut l'admettre, mais aussi qu'il a réussi à mobiliser toutes les ressources disponibles qu'il avait autour de lui pour l'aider ou lui changer les idées quand il en avait besoin. « J'ai mobilisé mon réseau de contacts pour m'outiller », raconte Marc. Le parcours de proche aidant du couple est empreint d'un réalisme et d'une prise de conscience incroyable sur leur nouvelle situation. Après l'hospitalisation de Jeanne, il a fallu trouver une solution de logement adéquate à sa nouvelle condition. C'est ainsi que Marc et Martine ont transformé leur résidence à la Chute pour aménager un appartement adapté aux limitations et aux besoins de Jeanne, tout en lui offrant un environnement de travail stimulant pour qu'elle s'adonne à son métier de scénariste-réalisatrice. Nos trois enfants avaient quitté la maison, alors nous avions de la place. Mais nous savons que tout le monde n'a pas cette opportunité. Mon épouse et moi avons très souvent répété deux mots depuis décembre 2021. Gratitude et reconnaissance. Aujourd'hui, notre fille va bien et mène de front et à son rythme plusieurs projets cinématographiques. Notre vie a été chamboulée, mais nous avons appris à se serrer les coudes, à s'épauler mutuellement et à vivre davantage le moment présent, affirme le père de famille. D'incessantes démarches. Après l'accident de sa fille, Marc Carrière est allé chercher les nombreuses ressources qui étaient disponibles autour de lui, à l'IRGLM et au CLSC d'Argenteuil. Il s'est mis à lire sur la nouvelle condition de sa fille, la tétraplégie. Il a appris à connaître les réseaux des personnes en situation de handicap, ceux des proches aidants ainsi que les organismes qui œuvrent pour les soutenir, qui roulent, Finautonome, Mémo Québec, etc. Il s'est renseigné sur les soins de première ligne, le support qu'il pouvait obtenir, la gestion au quotidien ou encore la défense des droits des personnes en situation de handicap. Il a aussi posé des questions sur les ressources gouvernementales, les crédits d'impôt, le chèque emploi-service, les subventions et les programmes existants, trop souvent insuffisants et mal adaptés, juge-t-il. Marc et Martine ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour améliorer la qualité de vie de leur fille. Et Marc continue à le faire à travers les webinaires de Mémo Québec, notamment. Ils lui permettent d'apprendre au contact d'autres qui vivent la même situation. C'est exigeant et énergivore. Mon arrêt de travail au moment de l'hospitalisation de Jeanne m'a permis de me concentrer pour acquérir toutes ces connaissances. Je n'ai jamais eu recours au répit parce que j'ai beaucoup de soutien, mais si j'en avais besoin, je n'hésiterais pas, assure Marc. Aucun problème à se reconnaître proche aidant. Marc n'a jamais eu de difficulté à se décrire comme proche aidant. Depuis quelques années, il occupe également ce rôle pour son père de 92 ans qui rencontre des enjeux cognitifs et de démence. Ma mère a travaillé 16 ans comme auxiliaire en soins à domicile. Ce mot a toujours résonné dans ma famille et dans mon travail. J'ai souvent eu l'occasion de côtoyer et d'épauler des organismes qui œuvrent dans ce domaine, explique Marc Carrière. Cependant, il avoue qu'il y a une différence énorme entre les connaissances théoriques et la pratique au quotidien de la proche aidance. C'est une sacrée responsabilité. Il n'aurait jamais imaginé, à presque 65 ans, devenir un jour le proche aidant de sa fille. La vie n'est pas un parcours linéaire. Tout le monde vit de grands moments de bonheur, mais aussi des épreuves difficiles. Pour avancer, on fait souvent un pas de côté, deux en arrière, pour ensuite en faire trois vers l'avant. Mais je me suis découvert une plus grande capacité d'adaptation que je l'aurais anticipé. Je n'ai pas suivi de formation particulière. Je suis devenu proche aidant à la suite d'un drame. Pour ma part, comme exutoire, j'ai beaucoup écrit sur ce que je ressentais. Mon épouse, elle, a davantage consulté une travailleuse sociale. Un quotidien plus facile grâce à la force de sa fille. Jeanne reçoit des soins à domicile chaque jour par le biais du chèque emploi-service. Elle a la chance de compter sur des préposées aidantes dévouées, humaines et compétentes qui assurent les soins au quotidien, ainsi que le ménage une fois par semaine et certains rendez-vous externes, raconte Marc. Lui et son épouse se chargent entre autres des courses, du lavage et s'occupent du volet gestion, reddition de comptes pour les projets professionnels de Jeanne. Marc raconte que la force de sa fille, sa détermination, sa ténacité, sa discipline, sa résilience et sa volonté de vivre l'aident beaucoup. Elles m'inspirent et font de moi une meilleure personne. La solide équipe qu'il forme avec sa femme, leur soutien mutuel et leur incessante communication leur a permis de surmonter cette épreuve ensemble. Pour l'avenir, le couple souhaite garder la santé. Profiter du quotidien et des petits bonheurs de la vie. Nous voulons être présents pour Jeanne, ses deux frères, leur conjointe et nos petits-enfants adorés, Laura et Adam, souligne Marc. La marche en forêt avec leur chien Bixie, les escapades à vélo, les précieux moments entre amis leur permettent aussi, à Martine et à lui, d'enlever un temps la charge qui pèse sur leurs épaules. Ils ont appris à avoir le bonheur facile, comme le dit Marc. C'était Marc Carrière et Martine Ayotte, proches aidants par amour inconditionnel pour leur fille. un texte d'Aline Van Compernol paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
De Jean-Pierre Coallier, un texte de Pauline Gravel, paru le 16 octobre 2025 dans Le Devoir. À 87 ans, l'œil vif, le sourire rieur, Jean-Pierre Coallier garde la superbe de son incontestable talent de communicateur. L'ancienne vedette des talk-shows québécois accompagne chacune de ses phrases d'un geste. Ses mains, larges ouvertes, semblent étaler son discours devant lui pour qu'on puisse non seulement l'entendre, mais le voir. Il me touche volontiers du plat de la main, comme pour être certain que ces mots se rendent bien jusqu'à moi. Il rit et bientôt il pleure. Bon, je vous fais du spectacle, monsieur Nadeau. Comme pour s'excuser de sa sensibilité, lorsqu'il se remémore, comme il le fait devant moi, les suites de son AVC, les émotions le gagnent à toute vitesse, le doublent et puis le conduisent dans l'horizon des plus tristes souvenirs. Ce sont les moments les plus durs de ma vie, me dit-il en essuyant ses joues. Je me suis rendu compte de ce que j'étais au jour où je n'étais même plus capable de dire « « Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. » Un communicateur qui ne peut plus communiquer, qu'est-ce que c'est ? Tout a basculé en 2009, et cela continue depuis de bousculer sa vie. Quelle expérience terrible ! Je revenais de Québec. J'avais passé la journée pour régler des problèmes avec une de mes stations de radio. Au retour, je me suis arrêtée à mes bureaux à Montréal. J'échappais tout bonnement mes clés par terre, j'étais incapable de les reprendre, même à deux mains. 3 semaines à l'hôpital, aphasique. Des mois en s'en remettre, puis un objectif, revenir en onde. Il s'astreint à un entraînement de son cru, tout en poursuivant ses rencontres avec des spécialistes. Je me rendais en studio, je me mettais un crayon en travers de la bouche, puis j'essayais de lire un texte, n'importe quoi. Je n'y arrivais pas. Je rentrais chez moi complètement épuisé. Le soir, j'y retournais, je recommençais. Après un moment à m'enregistrer, j'ai pu arriver à communiquer de nouveau. À l'hôpital, on lui propose de faire profiter de sa méthode quelques patients. J'en ai amené avec moi en studio, 5 ou 6 peut-être. Ils étaient exactement dans la même situation que moi, incapables d'articuler une phrase. Ça a fonctionné pour eux aussi. Mais bon, ce n'est pas mon métier, la réadaptation. Moi, c'est revenir en onde que je voulais. Après 1 an d'entraînement, Jean-Pierre Coallier retourne devant un micro. Pour tenir, je devais désormais tout écrire. C'était la seule façon d'être certain de ne pas trébucher. Diriger une radio dans cette condition, c'était difficile. À son cœur défendant, il vend ses stations. Depuis, confie-t-il, il n'y a pas un jour où il n'a pas rêvé de retrouver un micro. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rêvé que Radio-Canada m'appelait pour me confier une émission de radio. Répandre la joie. À travers la vie de M. Coallier, c'est non seulement l'histoire de la radio qui défile, mais celle de la télévision. Au petit écran, l'animateur sera à la barre de plusieurs émissions populaires. À la télé, j'ai été parmi les premiers à être diffusés le matin. J'avais fait remarquer à la direction qu'il y avait aussi des auditeurs à cette heure et que personne ne s'en occupait. Au début des années 1960, sur les ondes de Télémétropole, il anime une émission qui crée une petite révolution, Métro Matin. C'est la première matinale à la télévision au Canada et elle fait école. Mais tout commence à la radio. Très tôt, il travaille sa diction. Jean-Pierre Coallier adopte une langue qui se veut conforme à ses modèles. René Lecavalier, Roger Beaulieu, Roger Lebel, mais aussi Doris Lussier, qu'il estime pour sa fantaisie. Le bien-dire est pour lui le fait d'un accent travaillé. Adolescent, il propose ses services partout, jusqu'à finir par être repêché par l'antenne de CFRB à Sudbury. C'était en mai 1958. Il sera ensuite à la télévision du côté de Timmins. Toutes ses émissions, notamment ses talk-shows d'inspiration américaine, ne seront jamais envisagées en matière de critique sociale ou politique. Mon ami le cardinal Léger disait « Répandez la joie et le monde sera meilleur ». Pour répandre la joie, je n'allais pas dire « nous avons un gouvernement de chiens dont il faut nous débarrasser ». Il n'en pense pas moins, dit-il. Ami du cardinal Léger, oh oui, je suis même allé le voir en Afrique. À la fin des années 50, c'est Jean-Pierre Coallier qui articule la présentation de Chapelet en famille, une émission religieuse animée par le cardinal. Personne ne voulait faire ça, alors je l'ai fait. Il se souvient encore en riant du récitatif qui lançait cette quotidienne. Directement de l'archevêché, nous vous présentons l'émission Chapelet en famille, un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. Comme beaucoup de Québécois, je suis née dans une famille croyante. Le jésuite Richard Arès, ancien directeur de la revue Relations, est son oncle. J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai cessé d'aller à la messe à l'époque où j'animais l'émission « Jeux d'hommes » 1965. Les gens trouvaient l'émission trop olé-olé. On parlait à voix basse de moi quand je me présentais à l'église, alors j'ai arrêté d'y aller. Le public se souvient beaucoup de Jean-Pierre Coallier pour Adlib 86-95. C'était un talk show du genre de celui de Johnny Carson ou de David Letterman. Nous avions de 1,5 million à 2 millions d'auditeurs tous les soirs. Avec cette émission en particulier, il dit avoir appris une chose fondamentale. Savoir fermer sa gueule. J'ai compris que ce n'était pas moi qui faisais le spectacle, mais les invités. Dessiné pour se relever. Dans les années 60 et 70, en plus de tout le reste, l'animateur livre chaque jour une caricature pour les pages du journal Montréal Matin. Entre la radio, la télé, la direction des stations, je faisais mon dessin quotidien. Il m'est resté ça de mes études aux Beaux-Arts. Quand j'ai eu mon AVC, je me suis remis à dessiner pour le CHUM. Le centre hospitalier a publié 18 fascicules de ses dessins sous le titre « Je rallume mon cerveau ». Il s'agit d'un complément à un programme de réadaptation voué à faire travailler de nouveau les ménages blessés. J'en dessine encore un tous les jours. Face au fleuve, dans la chaleur enveloppante de la verrière de son appartement d'Habitat 67, il me montre ses derniers croquis. « Je n'ai plus que ça à faire, dit-il, à l'heure où il peste contre de nouveaux ennuis de santé. » L'exposition prolongée au soleil lui a fait développer un vicieux cancer de la peau dont il tente de contrôler les résurgences possibles. Habitué des ciels bleus de la Guadeloupe, où il est propriétaire d'un moulin de 1827, il paye cher le plaisir des rayons du soleil. Lumière de la musique. Tout notre entretien est baigné par la lumière de la musique. D'où vient cette passion? Quand j'étais petit, c'est ce que nous écoutions à la maison. Ses parents possédaient un dépanneur dans le quartier populaire de Rosemont. Je jouais à l'animateur de radio, installé dans une boîte de carton. Je disais « On va maintenant passer du Beethoven ». Et puis ma sœur donnait un coup de pied dans la boîte pour que j'arrête. Dans un milieu populaire, la musique classique tenait donc une place importante? Oui, tout à fait. Cette musique appartenait à tout le monde. Il rit. Et ses yeux sont de nouveau pleins de larmes. Radio classique, CJPX-FM, était mon but ultime. Et c'est mon plus grand chagrin d'amour. J'en rêve encore. Je suis en deuil depuis 10 ans. Il est branché presque en permanence sur CBC Radio 1. Les anglophones ont encore de la musique classique à la radio, eux. Il y a bien Radio Ville-Marie qui, en français, diffuse des grands bouts de musique classique. Mais ce n'est pas le genre de radio qui m'intéresse. Très vite dans sa vie, Jean-Pierre Coallier a voulu posséder ses propres stations. Pourquoi ? Parce que je voulais faire ce que je voulais à ma manière. Mon grand rêve, vraiment, était d'avoir une station de musique classique. Si j'étais plus jeune, j'en racheterais une. C'était « Le soleil » de Jean-Pierre Coallier, un texte de Pauline Gravel, paru le 16 octobre 2025 dans Le Devoir.